Chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence d'Elisabeth Sombard, qui est une musicienne, une pianiste, mais pas que, ainsi que Claude-Alain Planchon qui l'accompagne, parce que ce soir, Elisabeth Sombard donne un concert à Saint-Julien-le-Pauvre et qu'elle nous parlera de ce concert et de pourquoi ce concert à Saint-Julien-le-Pauvre. Mais nous avons aussi Grégoire Bignet, qui est ici présent, qui est architecte et dont, depuis quelques années, nous suivons les travaux au long cours, une pensée au long cours sur l'architecture aujourd'hui. Vous savez que l'architecture est un art, c'était un art majeur, et donc ce qui se passe en architecture nous intéresse tous beaucoup, parce que c'est l'architecture qui conditionne les lieux pour l'art. C'était le premier art d'une certaine façon. Et puis nous aurons bien sûr la chronique de Christine Surgens qui nous parle toujours de l'actualité dans le domaine des arts et qui nous en fait le commentaire. Donc nous commençons par Elisabeth Sombard, dont j'ai entendu parler grâce à un poète. Alors vous voyez, c'est une excellente référence. Un poète de Strasbourg qui s'appelle Frédéric Andreux et qui est un voyageur et un découvreur de talent et qui vous a fait un reportage dans une revue qui est... c'est pas une revue, c'est les affiches de Strasbourg. C'est-à-dire que c'était un journal tout à fait professionnel où il y avait toutes les nouvelles que les commerçants, les entrepreneurs, dont avaient besoin les commerçants et les entrepreneurs. Et cette revue, eh bien, elle a gardé sa colonne libre de critique d'art, ce qui est peut-être une des dernières en France, pour ne pas dire la dernière publication qui a une critique d'art libre. Et donc, on suit beaucoup ce qui se passe sur les affiches de Strasbourg, parce qu'on y voit apparaître des talents qu'on ne voit pas aussi facilement dans les masses médias françaises. Voilà, c'est comme ça, Elisabeth Sombard, que je vous ai découvert. Alors, j'ai découvert le pianiste, parce qu'il m'a envoyé... comment on appelle ça ?
Un CD.
Un CD. Mais aussi pour tout le reste qui nous intéresse beaucoup. Et puis aussi pour votre histoire, parce que nous réfléchissons beaucoup dans cette émission à une question qui ne se posait pas autrefois, mais qui se pose depuis un certain nombre de décennies. Mais qu'est-ce que l'art et qu'est-ce qu'un artiste ? Et donc, ce que nous raconte chaque artiste sur sa vocation, déjà ce mot n'a pas tellement cours, mais aussi sur ce qui vous a déterminé sur votre histoire. Et c'est ça, on aimerait commencer par vous connaître sur votre histoire. Car, disons que non seulement vous êtes une pianiste reconnue qui joue un peu partout, surtout en Europe et au Liban, mais également vous avez créé une fondation pour que la musique soit jouée dans les lieux où on ne la joue pas habituellement, la musique classique en particulier. Et donc, il y a cet aspect-là des choses, mais aussi un autre aspect, c'est que vous avez créé une nouvelle forme d'apprentissage de la musique qui est très originale et qui est fondée vraiment sur une réflexion sur qu'est-ce que le son et comment l'homme, comment les oreilles réagissent au son. Mais Elisabeth, pour en arriver là, racontez-nous votre histoire. Vous êtes de Strasbourg, enfin vous avez passé une partie de votre enfance à Strasbourg. Vous étiez déjà au piano à l'âge de 6 ans et vous avez eu la chance d'avoir des très bons maîtres et d'avoir voyagé aussi. Racontez-nous.
D'abord, je vous remercie de cette introduction. On vous dit tellement de choses et vous avez réussi à faire une sorte de petite synthèse là qui est impressionnante. Mais vous savez, c'est très difficile de parler de soi-même, vous le savez bien. Vous parlez de la vocation qui est un mot En fait, Liszt disait, on n'a pas la vocation. La vocation s'empare de nous.
Absolument. Et ça, c'est très important.
Et moi, je me suis dit pendant des années, quand j'étais jeune, je disais, mais je me rappelle une fois, j'avais quoi, 15-16 ans, j'avais dû aller chez le coiffeur pour me couper tout à fait les cheveux. Et la coiffeuse avait l'air tellement heureuse et je lui ai dit, vous avez l'air tellement contente aujourd'hui. Et elle m'a dit oui, parce que c'est le week-end demain. Et là, j'ai eu comme une sorte de choc, parce que nous, on ne connaît pas le week-end, on ne connaît pas les vacances. On est, au contraire, on a cette espèce d'exigence intérieure qu'on ne comprend pas toujours quand on a 10 ans, mais qui est là. Et qui est de se dire, si je n'ai pas travaillé aujourd'hui mon piano, ça ne va pas aller. Hein, on sent que ce désir de perfection, d'exigence, elle est là dès le début, qu'on le veuille ou non. Et j'ai eu comme un moment d'envie. Je me suis dit, comme j'aimerais être coiffeuse, en fait. Et je me rappelle bien de ça. C'est juste pour répondre sur la vocation. La vocation est quelque chose qui s'empare de nous. Il faut essayer le plus vite possible de ne pas le subir, mais d'en faire une amie, une vraie amie. Ça prend du temps. Moi, j'ai beaucoup dit non avant de dire oui. Et j'aimais cette solitude, parce que le pianiste, c'est des millions d'heures seul à travailler chaque relation entre les notes, au nanopoids qu'on va mettre sur le sol dièse pour qu'il soit bien juste dans le phrasé. Quelquefois, je me dis, mais si les gens imaginaient ce qu'on travaille, combien de milliers de fois on a répété quatre mesures pour essayer de faire en sorte que les sons deviennent musique. C'est le slogan de notre fondation, d'ailleurs, si on peut parler de slogan, c'est pas un très beau mot, mais parce qu'il y a des lois.
Comment faire pour que les sons deviennent musique.
Oui, il y a des règles de la phénoménologie de la musique.
Et alors justement, nous allons parler de tout ça, parce que ça intéresse tous les artistes, la
phénoménologie du son.
Parce que en fait, on a oublié toutes les théories et les théories sur l'art qui nous ont envahis pendant ce XXe siècle et le début du XXIe, sont des théories. Mais elles ignorent la libido de l'œil, ce que j'appelle la libido de l'œil, c'est-à-dire cette chose qui fait que l'œil regarde ou ne regarde pas. Et il se passe la même chose sans doute pour l'oreille, c'est-à-dire que...
Malheureusement, on ne peut pas fermer ses oreilles comme on peut fermer ses yeux.
Enfin, c'est un langage, ce sont des choses... c'est anthropologique, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Non. Mais on va parler de ça après, on va peut-être d'abord commencer par, par cette enfance. En plus, vous n'êtes pas tout à fait de Strasbourg, puisque vos parents et grands-parents sont de quatre lieux différents.
Je suis un quart breton, je suis un quart écossaise, un quart géorgienne, un quart allemande et un quart roumaine. Alors ça fait de l'Atlantique à l'Oural.
Voilà.
Je suis née à Strasbourg car mon père travaillait au Conseil de l'Europe, à la création du Conseil de l'Europe, qu'il a d'ailleurs quitté en disant que c'était comme le paquebot France.
ça n'était plus rentable.
L'Europe avait un peu trahi ses promesses du début, je crois. Peu importe, c'est un autre discours, mais tout ça pour dire que j'ai quand même passé les 15 premières années de ma vie à Strasbourg et j'ai eu la chance d'habiter près du château de Kolbsheim où vivait Maritain, Jacques Maritain, le philosophe et mystique, on peut dire. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous dire que le début de ma vie a été à Strasbourg avec cette connotation de... européenne.
Mais après, vous avez voyagé très loin, puisque vous êtes partie en Argentine.
Oui.
Et vous avez connu un personnage tout à fait... qui était votre maître.
Bruno Leonardo Gelbert, oui. Ouais. Gelbert, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, je faisais des kilomètres pour aller l'écouter jouer. Je me souviens avoir marché de Franceville à Deauville, ça fait quand même beaucoup de kilomètres à pied, juste pour l'entendre. Et un jour, ma mère m'a appelée de Strasbourg. J'habitais déjà à Paris chez ma grand-mère pour continuer mes études à 15 ans. Et elle m'a dit, tu sais, ton maître, Bruno Gelbert, il est là. Il est à Strasbourg, il y a une réception après chez nos amis. Alors, si tu veux le rencontrer, viens, rentre à Strasbourg. Alors, je suis rentrée, bien sûr, tout de suite. Et après le concert, je suis allée le voir, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, je vous connais, vous? Je lui ai dit, oui, je viens souvent vous voir, mais je suis de Strasbourg. Et puis, je vais à cette réception, il y avait un dîner. Et vers minuit, comme ça, il me regarde et il me dit, bon, bah, puisqu'il y a un piano ici, jouez-moi quelque chose. Et vous savez, quelquefois dans la vie, à nous tous, c'est arrivé, on se dit, ça c'est pas une porte qui s'ouvre, une main qui est donnée, une. Et vous savez que vous jouez quelque chose de votre destin. Même si j'étais petite, parce qu'à 15 ans, on est petit quelque part. Même si dans l'âme, on sent les choses sans âge. Et je me suis assise au piano, et quand je pense que j'ai osé lui jouer la barcarolle de Chopin, quand j'y repense maintenant, et le pire, c'est qu'il m'a. Quand j'ai fini la barcarolle, il m'a dit, qu'est-ce que vous jouez d'autre? Je lui ai dit, je joue la Waldorf Fantaisie de Schubert. Non, mais tu imagines, j'en ai encore honte aujourd'hui, mais j'ai joué. Et on termine, je termine, et il me regarde et il me dit, vous avez ce qui s'apprend pas.
Voilà, ça c'est une phrase absolument
Oui. Bon,
magnifique.
je me suis dit, très
Ouais.
bien, et puis pour le reste, qui s'apprend, comment je vais faire? Et le lendemain matin, il m'appelle à la maison. Maman vient me réveiller, elle me dit, Bruno Gelbert est au téléphone. J'ai dit, c'est ça, et le pape aussi, peut-être. Ça me paraissait. Et il me dit, j'ai 10 minutes, venez à mon hôtel Sofitel, j'ai quelque chose à vous dire. Donc je m'habille, je cours, j'arrive, et il me dit, voilà, je vais vous proposer de travailler avec moi et ma mère en Argentine. Je ne savais même pas où c'était sur la carte, je crois. Parce que là, vous allez brûler la bougie par les deux bouts, debout. Vous ne tiendrez pas. Il faut que je vous consolide votre technique.
Déjà
Voyez?
votre technique, ce qui est énorme.
Oui, ouais. Bah oui, quand même. Mais il y a trois choses que je dois vous dire. Premièrement, votre petite frimousse ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je me disais, mais pourquoi il me dit ça? En plus, j'étais dans un tel manque de confiance de moi-même qui a duré jusqu'à il y a pas toute ma vie. J'ai traîné ce poids-là de là. Et puis, deuxièmement, il faut, quand on fait cette carrière, être capable d'assumer que quelqu'un peut se suicider dans la chambre d'hôtel à cause de vous et que vous n'avez rien à voir avec ça. Bon, je me suis dit, cet homme est fou, mais c'est pas grave. J'ai dit oui, mais j'ai compris après. Et troisièmement, terminer d'être frêle comme ça, hein. Une pianiste, c'est musclé, c'est. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, bah, vous avez 10 minutes pour me répondre, vous venez. J'ai dit, bien sûr. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, je pars en Argentine. Mes parents m'ont dit, bah, tu fais ce que tu veux, si tu trouves l'argent, débrouille-toi. Je suis partie.
Alors, ce
Avec
qui est extraordinaire, c'est que c'est la chose qui est arrivée à Bruno Leonardo, mais plus tard dans la vie, quand il a rencontré Marguerite Long, et que Marguerite Long a dit, donc elle avait ses cours de, elle aussi, qui a un peu bousculé l'enseignement de du piano
Oui.
et de la musique, et qui a considéré que c'était peut-être la pépite la plus importante qu'elle ait trouvée parmi tous les élèves qu'elle avait pu voir.
Oui, moi j'ai
Et
rencontré
c'est
Bruno
son,
bien
oui,
après.
et c'est son
Oui.
prix et le prix que
Le prix
Marguerite Long
Marguerite, oui.
qui a commencé sa carrière en Europe. Sinon,
Oui.
il avait eu une formation lui-même très, très,
En
à très,
Argentine,
très
la
haut
même que
niveau.
Martha Argerich, oui, chez ce
Oui,
professeur Scaramouza.
donc il a eu un très, mais lui-même était quelqu'un de tout à fait spécial qui, en plus, avait connu une maladie qui avait tout interrompu à un moment. Enfin bref, qui avait connu quelques épreuves. Voilà, donc vous passez par l'Argentine et puis après vous continuez à être voyageuse puisque vous allez à Londres et vous avez aussi un très grand maître à Londres
Oui.
et puis un autre à Vienne.
Oui.
Donc disons que votre formation a été quand même exceptionnelle et tout s'est enchaîné.
Je l'ai choisi en fait.
Oui,
J'ai
les avez
souvent
choisis
l'impression que
d'une
d'avoir
certaine
subi
façon.
ma vie,
Oui.
mais en fait, ça par exemple, c'est moi qui ai choisi d'aller à Vienne, c'est moi qui ai voulu travailler avec Chillida, bien sûr, ça je savais que ce serait le dernier de mes professeurs. Pour la phénoménologie de la musique, justement, c'est lui qui a. Bon, il y a eu Ansermet, mais c'est quand même lui qui a développé ça avec des cours à Mayence à l'université. Et oui, on peut plus que développer, approfondir, découvrir des choses extraordinaires, où on comprend d'ailleurs qu'il y a des lois dans les phénomènes sonores qui fait qu'on ne peut pas juste jouer n'importe comment. Mmh. Il y a des, lois, il faut les connaître. Mmh. Alors, il nous donnait toutes ces clés de compréhension qui commençaient. En fait, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y avait les trois vœux. Il ne le disait pas comme ça, mais il y avait l'obéissance, c'est-à-dire que si on n'est pas obéissant aux lois supérieures qui régissent les sons, comme d'ailleurs dans tout ce qu'on fait, mmh, dans l'architecture aussi, on peut pas, il y a des lois.
Qui sont, je dirais, on peut appeler ça l'anthropologie, c'est-à-dire la nature humaine.
C'est des lois cosmiques qui régissent les relations. Et donc l'obéissance, la pauvreté, parce que tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'a pas fait le travail de...
Si on n'est pas
s'affranchir pauvre, de son moi psychologique, social, affectif, etc. Tant qu'on est encore dans le vouloir se dire au lieu de laisser dire la musique en nous, ben, il n'y a pas de musique. Et puis la chasteté qui est finalement, du point de vue de l'hermétisme, même chrétien, la chasteté, c'est d'être uni corps et âme. Enfin, combien de fois on fait une chose en se disant « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Donc on n'est pas chaste dans ce moment-là. Et c'est pareil au piano, si le geste n'est pas en accord avec le phrasé, eh bien on crée une distorsion et une dichotomie en soi qui est douloureuse pour l'âme. Hein? Et je disais à Tchilbilia, que je lui disais, mais finalement, c'est la clé universelle, c'est les trois vœux, obéissance, qu'on retrouve. Donc tout musicien, moi je rajoute une chose, qui n'a pas fait vœu de silence, manque peut-être cette possibilité de rencontrer ce lieu intérieur, ce lieu de gratuité, ce lieu inviolable, à partir duquel quelque chose de l'unité peut se donner.
Oui. C'est le travail de remonter vers l'un.
Oui.
Donc, on passe du chaos au divers, au multiple, et il faut remonter vers l'un. Et c'est tout l'art.
C'est par les noms qu'on arrive au oui.
Exactement. Et il faut être pauvre pour pouvoir apprendre. Et donc, il y a un moment donné, vous commencez à faire une carrière où vous bougez beaucoup. Je crois que vous habitez aujourd'hui en Suisse. Donc un peu au milieu de toute cette Europe qui aime tellement la musique et qui c'est vrai, toute la musique, c'est toutes les différentes identités européennes qui se retrouvent dans cette mosaïque de musique
cette
différente.
Année, j'ai fait une tournée qui était intéressante parce que j'ai commencé par Londres, Paris, Prague, Vienne, Berlin, et je me suis dit, et Varsovie, j'ai fini à Varsovie, et je me suis dit, où est cette Europe? Qu'est-ce qu'il y a en commun dans cette Europe? Et vous pouvez comparer ça, je pense à monsieur qui est architecte, aux salles dans lesquelles j'ai joué. Le théâtre à Prague, qui est une merveille d'architecture. Enfin, il n'y a pas une fausse note, comme on dit chez nous. Enfin, mais en même temps, on voit qu'à Berlin, cette salle octogonale est aussi extraordinaire. Moderne, on n'aurait pas pu faire ça, je pense, même un siècle plus tôt. Et je me disais, quel dommage que le savoir, l'intelligence des connaissances nouvelles aussi et modernes, parce que je suis quelqu'un qui ne suis pas anti-moderne. Je pense qu'il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens aussi, suivant. Et je me disais, c'est dommage, on n'a pas fait le lien. Le lien n'est pas fait. On a réussi juste à diviser, à faire des gens qui sont contre ça ou pour ça, pour la musique classique qu'on aime mieux, pour l'architecture du 18e contre l'architecture moderne, au lieu de comprendre que cette division simpliste empêche juste de reconnaître ce qui est de juste et de beau dans toute chose, même nouvelle, qui puisse se faire. Et c'était assez frappant. Enfin, je sais pas si c'est pas trop confus ce que
non,
je dis
non,
là,
pas du
mais
tout.
Ça m'a beaucoup frappé parce que j'allais d'un lieu à l'autre pratiquement sur deux mois, et donc j'ai pu vraiment vivre ça et comprendre aussi que ce public qui vous écoute dans un silence vraiment reconnaissant, c'est aussi le pouvoir de la musique classique, de consoler l'inconsolable. Et on vit un temps aujourd'hui où les gens sont inconsolables, sont en prise directe avec cet endroit qui est inconsolable, et pour des bonnes raisons. Et donc, on est heureux. C'est pour ça que je disais l'autre jour, je vais devenir la pianiste des hommages. Je ne fais que des concerts en hommage à, ou pour le départ au ciel de quelqu'un.
Mais ce que vous allez faire ce soir, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ce soir.
Une comédienne.
Pour Nicole Croisil, je la vois plus comme une chanteuse. Je l'ai connue grâce à Claude Alain Planchon, qui a été.
Qui est avec nous ici.
Le plus grand professeur d'oncologie, qui a été une sommité à Paris pendant. Enfin, tu vas te dire qui tu es, mais et qui a suivi Nicole jusqu'à son dernier souffle. Et il se trouve qu'elle était venue à un de mes concerts. J'ai été très très frappée parce que nous, dans notre métier, quelquefois on se dit la variété ou ce qu'on, tu vois, on met des étiquettes. Moi, qui suis tellement contre les étiquettes, j'en avais mise une un peu parce que je savais pas trop, je la connaissais sans la connaître bien. Et on a parlé ensemble pendant un bon moment. Et elle m'a dit des choses sur, pas seulement ma manière de jouer, mais une capacité d'écoute, une intelligence, une sensibilité de l'écoute que j'ai rarement rencontrée, même chez des musiciens qui feraient le même métier, entre guillemets, que moi. Et ça a créé une espèce d'étincelle d'âme à âme entre elle et moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et elle est partie quelques mois après ça. Et on a tout de suite dit... C'était l'idée de Claude. On va faire un an après exactement. Elle est morte le 4 juin l'année dernière. Elle est partie. On va faire un concert en hommage pour elle. Parce que je crois que du visible à l'invisible, du fini dans lequel on est à l'infini, le chemin de la musique, le chemin des sons, le chemin du cœur comme ça offert, ça fonctionne vraiment.
Mais aussi Claude Alain Planchon n'est pas que médecin. Il est aussi écrivain.
Et comment ?
Avec quelque chose qui ressemble à ce que vous dites en musique. C'est-à-dire une sorte de perméabilité à l'émotion, quelque chose de fluide, de mouvant.
Oui, une ouverture. Vous savez, ce qui fait la différence pour nous entre un être fini et un être infini, c'est celui qui n'a plus eu peur de sa grandeur à un moment donné et qui a laissé ouvrir en lui tous les possibles. Et ça, c'est très très rare.
Donc, un écrivain... Une musicienne, un architecte, et moi je suis peintre et graveur, donc vous voyez, les arts sont là autour de la table.
Oui.
Et donc, dites-nous trois mots sur la personne que vous honorez ce soir.
Alors, il faut vous dire que Nicole Croisille est une amie de longue date, c'est une amitié indéfectible de 40 ans. Et en tant qu'ami, il se trouve effectivement que j'étais cancérologue et pendant le confinement, Nicole m'a dit qu'on lui avait découvert une image suspecte au niveau du foie. On n'a pas pu lui faire des examens à temps à cause du confinement et cette image suspecte s'est révélée être un cancer du foie primitif.
Mais ne parlez pas en médecin, parlons de l'artiste.
Voilà, Nicole a ébloui ma vie depuis que j'étais rentré à la fac de médecine en 1967. Elle avait chanté une chanson « I'll never leave you » qui accompagnait le film de Marcel Carné « Les jeunes loups ». Et c'était un coup de foudre musical. Et 20 ans après, il s'est trouvé que je l'ai reçue à la maison par l'intermédiaire d'un ami danseur étoile, Larry Exon, qui avait... fait son premier Olympia et on s'est tous retrouvés à la maison et ça a été un coup de foudre. Et avec Elisabeth Sombard, c'est un peu pareil. Quand tu parlais des hommages, nous, notre rencontre, tout ça, c'est des histoires d'amour. Mmh. Et dans ce monde de violence, il faut remettre l'amour avec un grand A au premier plan. Avec toi, c'est pareil. Et avec Nicole, c'était un véritable coup de foudre. Et lorsque Nicole allait très très mal, quelques mois avant sa mort, elle ne sortait plus en public, pourtant c'était sa vie, et elle souffrait beaucoup, et je lui ai dit, écoute, j'ai mon amie Elisabeth Sombard qui donne un concert à Saint-Julien-le-Pauvre.
Donc ce soir.
Alors là, c'était il y a un an environ, il y a 2 ans, est-ce que tu voudrais pas venir m'accompagner ? Et elle est venue, et... Le récital d'Elisabeth, c'était pour elle un éblouissement, en fait. En sortant, elle m'a dit, tu sais, merci de m'avoir emmené là, parce que pour moi, c'est le meilleur des médicaments. Et puis, oui, effectivement, Elisabeth, vous avez eu une longue conversation, et tu as vu son ouverture d'esprit, c'est une femme autodidacte. Hein, donc,
tout à fait, oui.
Et
puis elle a tout connu, ce dont nous on a tous souffert, des trahisons, des gens à qui elle a tout donné, qui l'ont lâché. Et ça m'a fait du bien parce que j'étais à ce moment-là en train de vivre une des pires trahisons. Enfin, j'ai toujours dit ça dans ma vie, mais finalement, c'était chaque fois pire, j'ai l'impression. Et elle me dit, mais c'est normal. Voilà. Il y a des pierres sur l'autoroute, on ne s'arrête pas, on continue.
Gilberte Cournant, qui était une proche amie et qui était une des plus grandes critiques de danse, me disait toujours « L'apprentissage de la vie, c'est l'apprentissage d'avaler des couleuvres. »
Voilà.
Ouais. Mais ce soir, vous n'allez pas avaler des couleuvres. Ce soir, vous allez écouter Chopin. Et Chopin a fait un grand choc à notre amie Elisabeth Sombart, parce que c'est, dites-vous, quand vous l'avez découvert à l'âge de 13 ans, vous avez compris quelque chose qu'aujourd'hui, dont on a perdu l'importance. Vous dites que vous avez compris l'ordre premier et l'ordre supérieur, si on peut dire. Vous avez compris le mode mineur et le mode majeur. Et cette asymétrie que vit chaque homme en lui-même, c'est-à-dire il est un humain avec ses limites, et il est en permanence en relation avec le transcendant qui est en lui aussi et qui lui demande de dépasser des limites. Et vous disiez que Chopin pouvait jouer des choses très simples, très quotidiennes, et que après, bien, il savait passer d'un niveau à l'autre. Enfin, c'est notre ami Frédéric.
Je ne crois pas avoir dit ça exactement. Ce que je pense, c'est que nous vivons dans une rupture de symétrie qui est la chute, et donc qui est cette dualité dans laquelle on vit et dont on souffre, ou en tout cas qu'on essaye d'unifier le plus possible. Et il y a dans la musique, par le mode majeur et le mode mineur, une possibilité de vivre cette dualité pour finalement retourner à l'essence première qui est le majeur et la joie. Et c'est pour ça que Jean-Sébastien Bach terminait toutes ses œuvres, même les œuvres écrites en mode mineur, par l'accord parfait majeur à la fin. Comme pour nous rappeler, pour la tierce picard, comme pour nous rappeler que le monde, avant d'être chaos, est ordre et joie. Puisque le majeur représente la joie et le mineur, finalement, est un majeur en souffrance, est une manière de dire la souffrance de l'homme dans cela. Et peut-être que ce que j'ai dit, je ne sais pas si
il a été traduit,
parce que je n'ai pas lu cet article, je le remercie de toute façon, c'est que si chacun de nos compositeurs est un prophète d'une certaine manière, Bach, c'est le prophète de la paix. Mozart, de la joie, Beethoven, de la liberté, je ne sais pas si on trouve. Chopin, c'est la nostalgie. D'ailleurs, c'était son mot, le tsal. Et la nostalgie, c'est justement celui qui a le mieux exprimé cette... comment je vous dirais ça, cette nostalgie qu'on porte d'un paradis perdu, de quelque chose qui serait absolu, mais qu'on n'arrive pas vers lequel on tend, mais qui nous échappe. Et vous savez, la biographie de quelqu'un n'est pas suffisante pour expliquer son génie créateur. Parce que ce n'est pas parce que Chopin est venu à Paris qu'il n'a plus jamais pu rentrer en Pologne qu'il a été le mieux à même d'être ce prophète de l'exil et de... C'est le premier migrant. Un premier migrant. Mais en fait, c'est tout simplement la petite chose biographique qui lui a permis d'aller d'une manière générique à la chose, et de nous laisser. Et il y a dans sa musique, croyez-moi, quand vous écoutez les nocturnes, d'ailleurs, quelqu'un me disait qu'il aurait dit que ces nocturnes guérissaient. Chaque nocturne guérit. Il n'a pas dit ça des valses ou des mazurka ou des... Oui, il aurait dit ça des nocturnes. Mais ce n'est pas historiquement prouvé, mais je le sens quand même assez bien. Et quand il jouait lui-même, les rapports qu'on a, qui sont magnifiques, que ce soit de George Sand ou de Berlioz, ou etc., disent qu'il aimait jouer dans le noir, sans lumière, parce qu'il était la lumière quand il jouait. Et puis il terminait toujours ses improvisations en faisant un énorme glissando sur le piano, comme pour...
Oui, sortir de l'enchantement.
Revenir à notre existence.
Mais je crois qu'il faut qu'on parle, parce que le temps malheureusement est toujours compté, de cette décision que vous avez prise de créer une fondation pour jouer de la musique là où on ne la joue pas.
J'ai un ami, Nicolas Butet, qui est prêtre, qui est je lui dis toujours, tu es un peu Saint-Dominique et Saint-François dans la même personne, si on devait les chercher. Et Nicolas, un jour où les choses n'allaient vraiment pas, je ne trouvais plus les sous, j'arrivais plus à... J'avais l'impression que les choses n'avançaient pas dans la fondation, alors qu'on existait déjà depuis plus de 20 ans. Il m'a dit, ne t'en fais pas, n'essaye pas de regarder par-dessus l'épaule de Dieu. Ta fondation t'appartient pas quelque part, c'est une œuvre de Dieu, même pas une œuvre pour Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin des œuvres pour lui. Je lui ai dit, mais comment je peux en être sûr? Il m'a dit, parce que t'as pas fait un business plan. Il n'y a pas de plan marketing dans ta fondation. C'est comme ça que j'ai commencé aussi, si vous me posez cette question. Il y avait une dame que j'aimais beaucoup, je ne la connaissais pas, mais elle venait à chacun de mes concerts ici à Paris au début. J'avais 20 ans, 22 ans. Et puis un jour, elle est venue, elle m'a dit, je ne pourrais plus venir à vos concerts. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Qu'elle venait aussi assez loin. Parce que je vais dans une maison de retraite. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, je lui ai dit, c'est pas grave, je viendrai là où vous êtes. Si vous ne pouvez plus venir, vous, je vais venir là. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est pareil à l'hôpital. Moi-même, j'ai subi une opération très lourde et longue. Et je suis restée des mois à l'hôpital. J'étais à Vienne. Et le chirurgien, d'ailleurs, qui m'avait opéré, est un musicien amateur, comme pratiquement tout le monde à Vienne. Il se retrouve le week-end pour jouer en quatuor, c'est quand même extraordinaire. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible qu'il y ait personne qui n'ait pas un piano, là. T'imagines, s'il y avait un piano, je pourrais jouer. Il n'y avait pas, à l'époque, encore moins, parce que je vous parle d'il y a 40 ans. Et c'est comme ça, par des relations, tout s'est fait dans ma vie, par des rencontres, par des relations. Et parce que voilà, je sentais que c'était nécessaire. Et puis il y avait aussi cette enfance qui... tout ce qui sort en ce moment d'ailleurs sur Epstein et toutes ces choses-là, moi je le sais depuis très très longtemps. Je l'ai su quand je suis allée en Argentine, quand j'ai voyagé, j'ai su ça bien avant tout le monde, ce qui se passait en Ukraine de ce point de vue-là. Et je me disais, un jour ça sortira, parce que personne ne me croyait, mais c'est pas grave, jusqu'à ce que ça sorte, puisque personne ne me croit, chaque note que je vais jouer, chaque concert, je vais l'offrir pour, je sais pas si ça servira à quelque chose, mais Seigneur, si jamais, j'offre ça pour libérer tous ces enfants des tunnels de l'horreur des prédateurs. Et ma double peine maintenant, c'est que c'est sorti, mais que personne ne fait rien. C'est encore pire qu'avant, où j'attendais en me disant... Voilà, et donc je vais faire ce film, je vous l'enverrai, un petit film avec une artiste russe qui est extraordinaire, qui dessine sur le sable, et qui racontera ce qui peut arriver à l'enfance, à un enfant, jusqu'à son retour, à sa libération dans la lumière.
Donc c'est une de vos grandes occupations, donc, et ça ne concerne pas seulement la France, puisque vous avez dans plusieurs pays d'Europe cette fondation qui
fonctionne. Oui, la Roumanie, le Liban.
Et bientôt la Géorgie.
Non, la Géorgie, c'est un pays de cœur, parce que mon grand-père était géorgien, j'y ai été récemment. Mais
en fait aussi, il y a un dernier aspect qui est très important, c'est ces écoles. Vous avez appelé Résonance.
La fondation s'appelle Résonance et les écoles sont Nos écoles sont gratuites, sans limite d'âge, sans examen. Et surtout, c'est la formation et l'apprentissage de la pédagogie résonance que j'ai écrite. On l'a écrit ensemble, les professeurs avec qui, pendant des années, qui est un assez gros pavé et qui est l'histoire de, et les règles et les clés de la phénoménologie de la musique.
C'est-à-dire que vous partez par la chose la plus simple, le son. Et
oui,
sa résonance.
Le son et l'homme. Oui.
Et donc, c'est le point de départ de votre enseignement.
Il y a, il y a deux chemins. Ou vous utilisez la musique pour dire qui vous êtes, hein, dans une forme de séduction et même d'horizontalité, ou vous utilisez la musique et ses règles ontologiques, intrinsèques, pour dépasser ce que vous êtes et pour devenir l'instrument de quelque chose de plus grand. Mais c'est pas, on s'élimine pas, parce que je veux dire, Dieu peut pas mettre le sucre dans le café, hein, si je le mets pas. Donc il y a une co-création possible uniquement dans cette. Et c'est pour ça que la musique, les gens disent, c'est une communication. On communique rien du tout avec la musique. Éventuellement, il y a une communion qui se fait, suivant le degré de conscience des uns et des autres. Mais on ne fait pas ça pour ça.
Oui, le but n'est pas le même.
Non.
Il y en a un qui est efficacité, business plan, et l'autre qui ne l'est pas.
En tout cas, l'intentionnalité n'est pas la même.
Et donc, pour nos, je suppose que nos auditeurs vont être très curieux de savoir un peu plus sur tout ça, parce que ce n'est qu'une petite fenêtre ouverte sur une grande discussion qu'il faudrait que nous ayons un jour ici sur cette... sur cette conception d'un enseignement à quelqu'un où il n'y a pas d'examen pour entrer, vous ne payez pas et vous apprenez des choses. Quand même, c'est assez original comme système.
En tout cas, aucun parent n'a pu nous dire ou peut dire à son enfant « Travaille parce qu'on paye ». Non, on ne travaille pas parce que on paye, mais pour autre chose.
Ouais. Donc, en fait... tout ça, on le retrouve sur Internet.
Oui, bien sûr.
C'est très important parce que ce que nous venons de dire, il y a tellement de choses qu'il faut pouvoir approfondir. Et on a cette chance qu'aujourd'hui, quand on veut savoir quelque chose, eh bien, on court à la source, on tape les mots-clés et on y est.
Alors, il y a une plateforme des masterclass que j'ai donnée pendant 30 ans.
Alors, donc, vous avez tout l'enseignement qui est en masterclass.
Tout l'enseignement, plus
les
textes.
Vous voyez ça sur Internet, vous tapez dessus et vous avez...
Vous mettez plateforme masterclass, vous mettez mon nom, vous mettez Fondation Résonance, vous trouvez tout. Vous voyez beaucoup de choses, en tout cas.
Donc, si on est curieux, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Tout est là. C'est-à-dire, vous avez le puits où aller puiser. Il y a aussi votre site.
Voilà, il y a les sites.
Votre concert, mais il y a aussi le site qui concerne aller jouer dans des endroits où on ne joue pas d'habitude. Voilà, c'est-à-dire dans les EHPAD, dans les hôpitaux.
Mais aussi au funérarium. Moi, pendant le Covid, j'ai beaucoup aimé faire ça. On a mis un piano au funérarium. Parce que non seulement ces personnes qui étaient couchées dans ces funérariums, là, dans ces pièces, il y en avait 18, ils étaient morts tout seuls, puisque personne ne pouvait aller les voir, puis personne ne venait les voir. Donc je me suis dit, il faut absolument que je leur tienne compagnie. Non, mais c'était une impulsion, mais vraiment. Alors j'allais 2 heures, l'après-midi, la nuit, comme ça, j'ouvrais grand les portes, et puis je disais, ah ben non, c'est pas la peine que j'ouvre les portes, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'était quand même dans ma tête.
Donc ça, c'était pendant le Covid.
Pendant des mois, presque une année. Alors petit à petit, j'ai appris aussi des choses là, parce que moi, je sentais bien, il y avait une journaliste qui était venue, elle me dit, mais c'est pas possible, vous jouez tellement bien, il n'y a personne. Ah, ben, je lui dis, ça c'est ce que vous croyez qu'il n'y a personne, ils sont tous là. Et puis aussi après, quand petit à petit, les familles ont pu venir, surtout quand il y avait des jeunes qui mouraient là, ils faisaient moins attention aux règles, les parents et tout ça. Il y a des gens qui me disaient, ça nous a tellement aidés, parce qu'on ne sait pas prier, on ne savait pas quoi faire, on était là, mais votre musique nous aidait. Et je me suis dit, voilà, c'est aussi, la musique n'est pas une chose en soi et un but en soi, mais elle est une porte, elle est un chemin. Et Haydn, il disait que la musique classique, c'est le bruit que fait la porte du paradis en s'ouvrant. mais c'est pas le paradis.
Alors, dès ce soir, vous pouvez aller profiter de ce concert Chopin. Donc, nous sommes le 4 juin, qui est un hommage à Nicole Croisille, église Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris. Oui. Alors, je crois qu'à 18h, c'est...
Non, c'est à 19h.
C'est à 19h.
Oui, voilà. Oui.
Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous tapez Fondation Résonance ou...
Ou vous venez directement.
Ou vous venez directement. Merci, chère Elisabeth Sombart. Et on continue la conversation sur la musique à une autre occasion.
Avec grande joie, merci.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs, nous disions donc que musique et architecture sont liées. En tout cas, autrefois, c'était une évidence. Je ne sais pas si ça l'est encore aujourd'hui pour les architectes, le lien entre la musique et l'architecture. Donc, cette volonté de mettre espace et temps en harmonie, de l'accorder et de faire en sorte qu'il y ait un bâtiment qui représente une unité et non pas des choses qui vont dans tous les sens et qui ne concordent pas ensemble.
Alors, je ne saurais pas dire si c'est encore d'actualité.
Enfin, est-ce qu'on apprend ça à l'école, à l'école d'architecture? Non.
Non, moi j'écoute beaucoup de musique avec grand plaisir, mais le lien que je peux faire avec l'architecture, non, n'est clairement pas direct.
Mais à la Renaissance, on l'enseignait.
Ce qu'a dit Elisabeth sur Bach, qui m'a beaucoup intéressé, sur le mode mineur et majeur, j'ai terminé un dernier ouvrage, où je termine, je crois, un paragraphe, en faisant référence au mode mineur chez Bach, qui, je trouve, correspondait assez bien à ce que j'avais pu écrire dans les pages précédentes. Mmh. Et j'ignorais ce détail qui n'en est certainement pas que Bach terminait sur un accord majeur, lors de partitions en mode mineur. Je suis heureux de le découvrir. Moi, j'ai pas osé, mais bon.
on se nourrit d'analogies. L'analogie nous sort de notre petite spécialisation. Et c'est un moyen de savoir fabuleux, l'analogie. Donc l'analogie de la musique et de l'architecture, elle a fonctionné formidablement au temps des Grecs, qui croyaient aux harmonies de nombres, Pythagore et toute la famille. Et puis après, à la Renaissance, où on construisait des palais selon les lois de l'octave. Alors, aujourd'hui, Grégoire Bignet, nous allons fêter un prochain livre qui sort incessamment. Et en fait, c'est le quatrième de la série, puisque nous avons parlé de tous les autres avant.
Le cinquième.
Mais c'est un... Ou le cinquième, il en manque un, là.
Non, ça sera le cinquième.
Ah oui, ça sera le cinquième. Voilà. Et alors, le premier, c'était « Architecture et écologie ». C'était architecture et énergie. Ensuite, architecture et économie. Ensuite, architecture, écologie. Et enfin, la troisième nature, une sorte de synthèse. Mais là, on passe à... Vous allez nous annoncer une quatrième dimension, si on peut dire, qui fait que... Et comme toute chose, une pensée, ça demande le temps long. C'est-à-dire, l'IA nous apporte beaucoup de choses très, très confortables et très rapides, et nous en servons tous. Mais la pensée, elle, c'est un autre temps. Et donc, il fallait que vous réfléchissiez au départ sur l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire une architecture où ce sont des puits de gaspillage d'énergie. On n'avait pas pensé à une époque où l'énergie coûte très cher. Ensuite, l'économie, l'architecture et la rentabilité étaient une chose importante. Sinon, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de bâtiment. Ensuite, l'écologie, c'est reconnaître qu'on ne peut pas construire la même architecture dans des cadres géographiques différents. Bon, et puis après, c'est un peu la synthèse de tous les trois. Mais vous nous annoncez un cinquième.
Oui, quelques précisions sur ce que vous venez de dire.
Oui, j'ai été un peu rapide.
Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui. Les trois premiers livres sont une trilogie et ce sont des cours. J'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine et à l'école des Ponts et Chaussées. Et à un moment, j'ai éprouvé le besoin de les écrire, tout simplement. Donc, ce sont des cours. C'est supposé être des connaissances rassemblées sur les sujets dont vous avez parlé, enfin les champs dont vous avez parlé, économie, écologie et énergie, qui, de mon point de vue, enfin je l'ai découvert, il est nécessaire qu'ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire de parler d'écologie sans parler d'économie, sans parler d'énergie et inversement, est compliqué, parce qu'on parcellise les choses et finalement l'architecture c'est tout sauf quelque chose de segmenté. Le dernier, c'est celui dont vous avez parlé, sur le climat, la troisième nature, c'est un essai. C'est-à-dire là, je me permets d'être plus, comment dirais-je, plus libre que dans les trois premiers. Le cinquième que je viens d'achever et qui sera publié en octobre, c'est une tentative pour construire une réponse à la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire comment un architecte peut envisager son architecture pour faire face à des enjeux que l'architecture est en mesure de relever. Par exemple, le climat, la santé, la biodiversité, le numérique, l'accès aux ressources naturelles. Et donc, c'est un essai qui est comme une construction, comme une petite cathédrale, si je peux dire, à mon échelle.
Les abris atomiques.
Oui, si on veut. Et où en étais-je? Voilà, c'est vraiment une construction comme un architecte peut le faire. Alors que les ouvrages passionnants sont des exercices, comme un peu en musique, hein, les exercices sont différents, les œuvres, les partitions sont de nature différente. Et là, c'est le dernier est vraiment une construction d'architecte.
Alors, comment vous êtes... Vous vous y êtes pris, vous dites que vous faites toujours 12 chapitres ou quelque chose comme ça. Vous avez une sorte de structure dans laquelle vous mettez votre démonstration d'habitude. Comment ça s'est passé pour ce cinquième livre ?
À la cinquième livre, l'avant-dernier était effectivement un algorithme de 12 opérations, 12 étapes, hein, de nature vivante à nature humaine. C'est-à-dire que je partais de la nature, de l'environnement pour arriver à décrire l'architecture jusqu'à sa nature humaine. C'est pour ça que j'ai écouté avec attentivement Elisabeth, qui, à mon avis, parle de ça, mieux que moi. Le dernier, c'est plus simple. 4 chapitres, un sur la nature, un sur le monde dans lequel nous sommes, le troisième sur l'architecture, c'est-à-dire comme tentative de conciliation de ces deux premiers mondes, et le quatrième chapitre sur l'après-mondialisation. Je pense qu'on est dans une époque... De bascule après une ère de globalisation. Et donc là, la question, c'est quelle architecture pour cette après-mondialisation ? Donc 4 chapitres.
Et donc, on ne peut plus construire comme on a construit entre, disons, les années 60, avec une sorte d'architecture presque obligatoire, cubique, universelle et globale. Ça, c'est terminé.
De mon point de vue, oui, parce que si on tire les conséquences de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que je pense que l'architecture n'est plus un parpaing au-dessus d'un autre, n'est plus un objet dans un écrin naturel, parce que cette hétérogénéité entre l'objet construit et puis l'écrin, enfin l'environnement dans lequel il se situe, On en a vu l'impasse, enfin, où, dans quelle impasse cela nous menait. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de revoir assez fondamentalement l'idée qu'on se fait de l'architecture. Et l'idée que moi, je peux m'en faire, c'est d'une part un certain regard sur le monde dans lequel nous sommes, et d'autre part une sorte de tricotage, en fait, de ces deux sphères, la nature et la sphère de l'homme, l'anthroposphère. Un tricotage fin, et l'objet de l'ouvrage, c'est à partir de quel principe, sur quelle base, avec quel outil intellectuel et pratique aussi, on peut faire cette tentative, d'abord intellectuelle, et puis après peut-être, c'est ce que je suis en train de faire, d'un point de vue courante, hein, de la construction, quand je fais des plans, quoi, tout simplement.
Alors moi, ce qui me frappe, c'est que bon, je suis un peu à l'écoute de ces grands changements, comment ils s'expriment, comment ils se manifestent. Bon, cette architecture globale, avec cette idée qu'une identité globale allait remplacer, allait permettre d'avoir la paix, puisque tout le monde serait pareil, il y aurait une culture universelle, il n'y aurait plus de différence entre les civilisations, et que c'était en plus la civilisation occidentale qui dictait ce qu'il fallait faire. Il y avait eu cette déclaration d'Athènes qui avait, il y en a eu plusieurs après la guerre qui s'est terminée en 1945, mais je dirais en 1960, c'était péremptoire. Un architecte ne devait renoncer à tout décor. Un architecte avait quand même des règles qui s'imposaient à lui s'il voulait, être... demander, avoir des commandes, etc. Et c'était un combat idéologique. Ça a beaucoup, beaucoup marqué cette époque. Bon. Aujourd'hui, tout ça se casse la figure, puisqu'on est passé d'un monde bipolaire à un monde hégémonique, et maintenant on est dans un monde multipolaire, et ça ne tient pas, évidemment. Les civilisations veulent rester des civilisations différentes, même si en deux secondes, on peut communiquer avec la Chine et l'Australie, il n'empêche que plus personne ne va dire qu'il faut une même architecture dans le monde entier. Et je ne vois pas de manifeste, je ne vois pas de, comment dire, de grande... On ne perçoit pas, quelque part, des gens qui disent « Voilà, c'est fini, et maintenant, il faut passer à autre chose ». Et il faut casser ces règles qui ont été terribles, parce qu'elles étaient quand même, je dirais, c'est un néo-totalitarisme, même dans un monde libéral. Que ça existe dans un monde totalitaire, bon, ça va avec le monde totalitaire, mais que c'est existé dans le monde entier de façon, dans un système libéral, ça c'est beaucoup plus étonnant. Bon. Quelles sont les grandes personnalités de l'architecture qui disent « voyons autrement, faisons autre chose » On n'entend pas ça autour de nous. Enfin, je ne sais pas, moi, vous êtes plus axé sur l'architecture que moi, donc vous avez peut-être des correspondants dans le monde entier qui pensent la même chose.
Elisabeth, vous vouliez prendre la parole, non ?
Non, c'est juste que vous parliez de la reconstruction après la guerre, qui était une reconstruction comme dans la ville d'Amiens, enfin dans tellement de villes où toute l'architecture était pareille, mais c'était dicté par la rapidité.
C'était dicté aussi par l'idéologie. Il n'y avait pas que l'urgence. Loin de là, puisque c'était une guerre politique aussi, hein, celle de l'architecture. C'est très politique, l'architecture.
Parce que, par exemple, quand j'étais en Israël, vous avez, et c'est philosophique, ça, c'est une pensée, il faut que toutes les maisons soient les mêmes. Il y a juste le numéro qui change, mais elles sont toutes les mêmes.
C'est philosophique.
Oui, mais c'est assumé aussi. C'est,
c'est voulu politiquement, oui.
Voilà, c'est voulu d'un... Donc, je ne sais pas s'il y en a ça en France.
Ah bah oui,
enfin, il y a le côté cage à lapin. Il y a un côté cage à lapin et on a perdu, parce que c'est une question d'argent aussi.
Non, je pense pas.
Je crois que le paradoxe, c'est que si la question est universelle, notamment la question du climat qui se pose à tout le monde, je pense que les réponses, notamment architecturales et intellectuelles, ne le sont pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les situations sont toutes différentes, géographiques, culturelles. Bon. Donc, finalement, le paradoxe...
Chose qui n'avait pas été reconnue avant.
Le paradoxe, c'est de vouloir apporter une réponse universelle. Vous faisiez réponse à la charte d'Athènes, qui est une tentative de réponse universelle, ou en tout cas occidentale. Je crois que maintenant, on échappe à ce genre de choses, puisqu'on a vu où ça, pour certaines réalisations, où ça nous menait. Vous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de l'Europe et des liens entre ces cultures-là. Vous parliez de l'Autriche aussi, qui est effectivement le symbole de cette tentative de lien entre des cultures différentes. En vous entendant parler, je pensais à ce que disait Fernand Braudel de l'Europe. Il disait que vu d'avion, c'était un immense jardin. Moi, je pense que l'Europe peut servir, ni de modèle, ni de laboratoire, mais en tout cas, servir de référence.
Oui, à cause de la diversité de la.
À cause de la diversité, oui. C'est-à-dire justement ce patchwork de cultures différentes. C'est ça qui fait sa spécificité. Et je pense qu'elle doit se définir, non pas par rapport aux autres cultures, je pense à la culture, on parle beaucoup de la culture, du continent américain ou chinois ou je ne sais où, mais elle doit réfléchir à ce qu'elle veut être elle-même, la fidélité qu'elle se doit à elle-même. Et vous me demandez s'il existe des exemples d'architectes qui.
Aujourd'hui,
qui parlent de ça, bien entendu. Je peux citer Peter Zumthor qui est suisse, je peux citer Anna Ehringer qui est allemande. Je peux en citer comme ça jusqu'à la fin de la journée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement ces singularités-là, ces regards qui sont différents sur le monde, et comment ces regards peuvent s'assembler entre eux pour faire de l'Europe un signe d'espérance, même si c'est un peu galvaudé de dire ça, mais je pense qu'il est absolument nécessaire. En tout cas, ce que j'essaye de faire, moi, avec mes étudiants, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement des problèmes, qui a des solutions, mais surtout des raisons d'espérer pouvoir accomplir le monde, en quelque sorte.
Alors, la charte d'Athènes avait voulu effacer l'idée d'identité. Et vous savez très bien que dans le domaine artistique, ce qui était condamnable, c'est un artiste qui développe l'identité. Donc ça, c'est fini. L'interdit de l'identité est fini. Donc on peut reconstruire des maisons avec des toits pentus quand il pleut, ou des toits plats quand il fait trop soleil. Enfin, vous voyez, toute cette architecture diverse dont vous parlez, c'était très lié au climat, et puis à des cultures, et puis... donc maintenant, c'est permis. Mais ça n'est pas... on n'en parle pas. On le fait sans en parler. Mais la charte d'Athènes avait été quelque chose d'extrêmement visible. C'est ce qui est étonnant, c'est que bon, on change d'époque, mais on le change sans que ça se dise ou ça se voit. C'est assez curieux. Et donc, ce livre, cinquième livre, vous ne donnez pas des solutions, c'est pas tout à fait ça. D'autres façons de créer, en fait, une autre façon d'être architecte.
Le point de départ de cet ouvrage, c'est de me dire qu'est-ce que Vitruve écrirait aujourd'hui s'il était dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Alors évidemment, je ne suis pas Vitruve, l'exercice s'arrête là, mais je me suis dit qu'est-ce que moi je pourrais écrire, modestement, sur la situation sur laquelle on est. Et surtout, non pas quelle solution, mais quelle réponse on peut apporter, quel regard singulier on peut apporter, d'une part sur cette situation, et après sans adjectif derrière. C'est ça l'idée de ce livre. Parce que ce qu'on voit beaucoup, notamment dans les médias, ce sont des gens qui lancent des alertes, qui sont nécessaires, mais je pense, il me semble, que nous avons dépassé cette période d'alerte. Alors, beaucoup de gens diraient, mais pas du tout, il y a énormément de gens à convaincre encore, mais convaincre de quoi et pourquoi. Mais ce que je vois moins, c'est comment on va faire. Et moi, en tant qu'enseignant, je dois dire à mes étudiants comment faire, pas seulement leur laisser la patate chaude. Et donc, ça exige quand même un petit effort de réflexion pour proposer d'un point de vue universitaire, des modes opératoires.
Alors, parlez-nous des modes opératoires.
Oh là là, c'est un vaste sujet. Hein. Je suis parti d'une notion qui est la notion des affordances, qui est utilisée par un certain nombre de gens, notamment dans le domaine médical. Les affordances, c'est la possossibilité d'agir. Par exemple, l'énergie est une affordance. C'est la nature qui offre à l'homme la possibilité d'agir sur le monde. L'idée, c'est de dire, et en retour, qu'est-ce que l'homme pourrait offrir à la nature comme possibilité d'exister, tout simplement. Alors, c'est évidemment pas l'énergie, mais c'est ce qui fait la spécificité, à mon avis, de l'homme, sur la base à partir de sa liberté, c'est l'éthique, un effort éthique pour réfléchir à ces questions-là. Parce que, étant doué de conscience, il peut faire cette démarche-là. Et donc, sur ces deux échanges, ces deux affordances, dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire énergie et éthique, qui lie, à mon avis, qui doit lier indissociablement nature et homme, j'ai émis l'idée que ces doubles affordances puissent être une équivalence. Et c'est sur la base de ces équivalences-là que je pense que nous sommes capables d'apporter des réponses à, pas seulement des questions écologiques, de climat, mais des questions économiques, des questions de subsistance, et puis une perspective, un horizon désirable de vie, tout simplement.
Et alors, comment vous définissez cette perspective, justement ? Est-ce que les étudiants sont habitués à essayer de dire voilà ce qui serait idéal ? Parce qu'il y avait autrefois cette lutte contre toute idée idéaliste. L'idéalisme étant quelque chose qui était mauvais en soi. C'était fasciste, bref, tous les mots qu'on peut mettre derrière, dans quelque chose comme la beauté, comme la vocation, enfin tous ces mots-là qui étaient exclus du vocabulaire. Alors, est-ce que donc, on peut avoir aujourd'hui, un étudiant peut avoir un idéal d'architecture dans l'esprit et le définir ? Est-ce que c'est permis ?
Oui, bien sûr que c'est permis. C'est même absolument obligatoire. Enfin, obligatoire. C'est essentiel, c'est nécessaire. Ce qui fait la meilleure garantie pour un étudiant en architecture de poursuivre son parcours au-delà de l'école, c'est sa liberté, c'est-à-dire la capacité qu'il a acquise à jouir de cette liberté, à la mettre en œuvre. Sans liberté, il n'y a pas d'architecture. Il y a du design, il y a du bâtiment, il y a de la prestation, mais il n'y a pas d'architecture au sens où il n'y a pas c'est pas le mot transcendance qui devrait me venir en tête, mais cette dimension au-delà, je crois qu'Elisabeth l'a évoqué aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on regarde vers le haut. Et c'est ça qu'il faut que
et
je pense.
Et ça peut être mis en mots, par exemple.
Alors on pratique tout simplement, on pratique au jour le jour avec les étudiants, c'est eux-mêmes qui apportent aussi parfois le fameux mode opératoire. Je pense, là je reviens de Maurice où j'enseigne chaque année, de l'île Maurice. Pour eux, l'écologie, c'est pas une posture, c'est pas un style, c'est une question de survie. Et donc je leur dis, vous avez en vous-même les capacités à trouver les solutions, puisque je ne serai plus là moi pour vous indiquer éventuellement le chemin à suivre, c'est vous qui allez le tracer, et pour que votre environnement existe et surtout soit un abri, enfin une grande maison collective. À Maurice, il y a de nombreuses cultures qui cohabitent, et pour le moment, heureusement. Donc c'est un exemple. Je leur avais demandé quel pourrait être l'adage d'un architecte mauricien. Et donc ici, on réfléchit eux-mêmes. Et je crois que c'est le mot patrimoine, au sens patrimoine vivant, et le mot cohabitation qui est ressorti de ces trois, comme liberté, égalité, fraternité, c'est leur propre adage. Et je pense que ça les a intéressés, parce que ça parle de leur vie, tout simplement.
Il faut mettre des mots sur les choses.
C'est ça, c'est mettre des mots sur les choses. Ouais.
Et il faut oser les mettre aussi. Donc aujourd'hui,
ils savent faire, les étudiants, ils savent oser. Hein.
J'aurais bien envie d'intervenir, puisqu'on a la chance d'avoir Grégoire Bignet ici. Il y a quelques années, j'étais même étudiant, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup impressionné. C'était le livre de Fernand Pouillon, Les pierres sauvages. Il se trouve que j'ai quitté Paris maintenant pour m'installer dans le Var, et pas très loin de l'abbaye du Thoronet, qui est un lieu absolument exceptionnel, où je rêverais de faire jouer Elisabeth, mais j'y arriverai. Et c'est vraiment un lieu où les pierres nous parlent. Qu'en est-il actuellement de l'architecture et de la spiritualité? Ça va peut-être faire l'objet d'un sixième livre pour vous.
Ah ça, je ne sais pas. Mais ce livre est effectivement un livre extrêmement important. D'abord, Fernand Pouillon, c'était un très grand architecte. J'ai eu la chance de le croiser d'ailleurs à un jury.
Moi aussi, j'ai eu la chance de le connaître.
Ah oui, c'est quand même un personnage exceptionnel. Et ce livre est très intéressant. Je continue à chaleureusement le recommander à mes étudiants parce que finalement, il illustre ce qu'un architecte peut être, c'est-à-dire avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Dans ce livre qui raconte la construction, la conception et la construction d'une abbaye cistercienne de mémoire. Non,
oui, c'est ça.
Si, tout à fait. C'est le Thoronet.
Le Thoronet, tout à fait. Tout à fait. Il parle à la fois de la rotation des ânes sur les chemins chaotiques et de ce qu'ils peuvent porter en descendant et en montant. Mmh. Et en même temps, il vous parle de la position du réfectoire par rapport au cloître, par rapport au lieu de prière, et qui sont des choses qui semblent, comment dirais-je, très abstraites. Et donc, il arrive à mélanger, à mettre dans le même livre des choses extrêmement concrètes et des choses extrêmement abstraites.
Et le rapport au temps aussi.
Et oui, toutes ces choses-là. Mmh. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que les architectes sont censés affronter.
Est-ce que les architectes d'aujourd'hui sauraient comment faire ça? Est-ce que vous avez encore les clés?
Alors, il y a quelques très grands architectes. Hein. J'en ai cité quelques-uns là. Oui, il y a quelques très grands architectes.
Mais vos élèves, par exemple?
Oh bah oui, j'ai des élèves qui sont qui font des choses tout à fait intéressantes maintenant. Voilà. Oui. Heureusement. Hein.
Qui connaissent
je les cite
les
d'ailleurs
secrets.
Longuement.
Ah, oui.
Je les cite longuement parce que ces livres s'appuient sur, en partie sur leurs travaux. Non, bien sûr. Pourquoi tout d'un coup Non.
Donc, si, on enseigne les secrets de la construction des cathédrales, des abbayes, de tout ça, parce qu'ils avaient des vrais savoirs.
Oui, je connais certains enseignants qui enseignent ça, notamment l'architecture gothique et tout ce qui est sous-jacent de cette architecture. Voilà. Oui, c'est enseigné. Ouais.
Ah, magnifique.
Ouais. Et pour en revenir au Thoronet, quand on voit ces blocs de pierre, ces clés de voûte extraordinaires, et tout était construit au millimètre près et sans ciment.
Oui.
C'est fou. C'était des lieux de résonance de la musique.
Oui.
Ça fait réfléchir à ce mot magique que tu connais bien, Elisabeth, qui est l'harmonie. En fait.
Oui. J'ai un ami qui est au Thoronet, chantait tout seul. Et sa voix portée comme si... sans micro, sans rien.
Oui, quelqu'un qui chante au Thoronet, sa voix projette 12 échos, minimum.
C'est les harmoniques.
C'est un instrument de musique.
Il connaissait les lois de l'acoustique et des harmoniques du son. Ouais.
Et d'ailleurs, dans le grand cloître, on ne peut pas jouer du piano parce qu'il y a trop de réverbération.
Bien sûr.
Et on le joue dans le petit cloître où il y a moins de résonance.
Alors, Grégoire Bignet, comment s'appelle votre prochain livre? Parce que vous ne nous avez pas dévoilé le nom.
Oui, il s'appelle Climax et le sous-titre, c'est Traité contemporain d'économie urbaine. Et voilà.
C'est austère comme titre.
Oui, c'est peut-être un peu austère, mais enfin, le sujet, évidemment,
il faut le temps long pour faire des synthèses. Et c'est quelque chose d'incompressible. Même quand on a l'IA et quand on a toute cette rapidité qui s'impose. Mais il y a ceux qui auront eu le temps long d'une réflexion qui pourront résoudre.
Oui, à propos du Thoronet et de l'IA, si je peux faire une sorte de rapprochement comme ça, un peu singulier. Quand je suis dans ce genre d'endroit, je me dis le niveau technologique et de maîtrise, tenant compte des moyens dont ces architectes et ces artisans avaient à leur disposition à l'époque, et au moins aussi, élevé que ce que nous mettons en œuvre là, à l'heure actuelle, lors de la conception des algorithmes d'IA. La question, c'est pour en faire quoi? Et c'est ça la, la
oui,
vraie question.
On revient à l'idée qu'aujourd'hui, un étudiant peut s'interroger sur un avoir un idéal de l'architecture qu'il désire faire et un but. Et un but qui est exprimé avec des mots.
Oui, sans ça, il n'y a pas d'architecture, de mon point de vue.
Merci Grégoire Bignet. Nous allons écouter maintenant la chronique de Christine Sourjas. Et je vous la recommande. Il suffit de mettre les écouteurs.
Oui, bonjour Aude.
Bonjour Christine. Alors, que se passe-t-il, que se passe-t-il à Paris?
Alors à Paris et dans sa, sa proche banlieue, moi je voudrais vous parler des enjeux mémoriels dans l'art dit contemporain. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pietrangelo Buttafuoco.
Non.
Non, c'est le président de la Biennale qui vient d'ouvrir à Venise. Et ce monsieur avait eu l'idée de réouvrir le pavillon russe. Vous savez que le pavillon russe est fermé depuis la guerre d'Ukraine. Alors, illico, il s'est attiré les foudres de la Commission européenne qui a menacé de suspendre la subvention à la Biennale de Venise pour 2028. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au passage, on apprend qu'elle se monte à 2 millions d'euros. Donc, les contribuables, nous payons tous pour la Biennale de Venise à 2 millions d'euros. Bon, effet immédiat. Le pavillon russe reste fermé. Alors évidemment, à l'annonce de cette présence russe, les protestations artistiques avaient fusé de tous côtés et normalement, elles auraient dû être abandonnées. Mais une amnésie générale a fait qu'en fait, toutes les protestations qui avaient été prévues pour contester la venue des Russes, tout a eu lieu. C'est-à-dire que les Pussy Riot, qui est un collectif féministe dont la fondatrice est russe, ont donné de la voix. Les Femen, avec la militante ukrainienne Inna Shvepchenko, se sont déchaînés au cri de « Le sang, c'est l'art de la Russie », avec le renfort de la Free Nations League. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est une alliance de 15 mouvements séparatistes de Russie. Enfin, tout ça a fait énormément de bruit médiatique, en plus, et en fait, pour rien, parce que la Biennale avait déjà reculé devant un argument autrement plus percutant, qui est celui des finances. Alors, il y a une autre polémique qui secoue Venise, le début de la Biennale de Venise, c'est le pavillon israélien, qui, lui, est ouvert. Alors là, ce sont des militants pro-palestiniens qui se sont mobilisés. Alors, il y a le collectif Arnot Genocide Hellens, c'est-à-dire une alliance, etc., qui a lancé surtout l'Arsenal, les Guardini, des tracts qui clamaient non au pavillon génocidaire, mais celui-là, c'est le pavillon israélien qui est visé. Le même jour, dans les rues de Venise, défilé avec force de banderoles qui disaient en anglais « pas de génocide par l'art », et par solidarité, près de 30 pavillons nationaux, dont celui de la France, mais on en a peu parlé, ont fermé ce jour-là. Donc vous voyez, ça pointe quand même des enjeux mémoriels autour de la notion de génocide, de la portée de la Shoah, etc. Et alors ce qui est très curieux, c'est que les enjeux mémoriels au sens large, aujourd'hui, sont partout dans la culture, y compris dans la faillite d'une célèbre galerie d'art très très contemporain, que nous appelons la C, n'est-ce pas Aude? Cette galerie s'appelle Air de Paris. Alors Air de Paris, c'est son nom Fleur Bon Marcel Duchamp, parce que Air de Paris, c'est le nom d'un ready-made du grand Marcel. Marcel avait demandé à un pharmacien de vider une ampoule de verre et de la sceller. Et ce ready-made, donc Air de Paris, résume son credo, c'est-à-dire « j'aime mieux vivre, respirer que travailler ». Bon. Donc la dénommée galerie Air de Paris soutenait, je cite, « des œuvres audacieuses et innovantes, d'artistes émergents comme établis, dont par exemple, Paul McCarthy, vous savez, l'impérissable auteur du plug anal sur la place Vendôme, grand exploit de la défunte FIAC. D'ailleurs, Art de Paris fut membre du comité de sélection de la FIAC, puis ensuite d'Art Basel.
Ça, c'est un point extrêmement important parce que ça explique tout ce qui se passe en ce moment.
Alors, vous avez compris qu'Air de Paris était une galerie qui pompait l'air international plutôt que Paris-Go. Hein. Donc, au début, elle était installée rue Louise Weiss, et puis elle a déménagé à Romainville. Et là, patatras, Air de Paris se liquéfie. Et on se dit, mais pourquoi? Alors, dans la communication qui suit la faillite de la galerie, on entend « impact de la pandémie », contexte économique de crise, vente très ralentie. Mais la fondatrice de la galerie, dans sa communication, insiste ailleurs. Elle dit « Ce qui motive cette fermeture est, je cite, « une volonté de préserver l'intégrité et l'héritage de la galerie ». Ce qui est quand même un argument étonnant, Aude. Imaginez Duralex fermant et disant « on ferme, mais c'est pour préserver la mémoire de l'entreprise ». C'est intéressant comme argument. Bon. Et vous remarquerez que le mot « héritage de la galerie », alors là, ça passe crème, alors que « héritage », sinon, c'est un vilain mot. Hein, mmh. Bon. Alors, on nous dit aussi, je cite, « les souvenirs des expositions marquantes et des artistes lancés continueront d'inspirer et de vivre dans la mémoire collective, d'influencer et d'inspirer la prochaine génération d'artistes et de galeries ». De galerie, pardon, fin de citation. Donc, c'est intéressant parce que la conclusion de la fondatrice en dit long sur une stratégie d'attente mobile. Elle conclut « Il faut se dissoudre à un moment pour réapparaître ailleurs
». Alors, il faut quand même comprendre la raison de la dissolution. C'est que depuis les années 70, la grande stratégie, c'était qu'il y ait des foires et que ces foires prennent la place de Paris, si on peut dire. Elles sont internationales, et c'est un collectif de galeries qui coopte les galeries qui vont dans le même sens qu'elles, c'est-à-dire le conceptuel, à l'époque. Mmh. Donc c'est comme ça que, peu à peu, le conceptuel est devenu le seul art contemporain. Bon, ils ont vidé progressivement toutes les autres galeries. C'est toujours le cas, c'est toujours la même stratégie qui a été celle de la FIAC et d'Art Basel. Donc ces galeries qui cooptent le courant et ça permet de faire des cotes, de consacrer des artistes émergents. Ben, vous savez, dans ce petit mail que Epstein a envoyé à Jacques Lang, lui disant « je te file 20 millions et puis tu fais les achats d'artistes émergents, tu fais ce qu'il faut, parce que ça passe par la FIAC, etc. Et on se partage la vente. Bon. Simplement, il s'est passé quelque chose de très grave il y a un an, dont personne n'a pipé mot, c'est que Trump a enlevé soir tout l'argent du soft power dont ça faisait partie. Le soft power, c'était beaucoup de choses, mais c'était en partie des choses comme ça. Voilà. Donc, qu'un an plus tard, la galerie ne fonctionne plus, ça me paraît une bonne explication.
D'accord.
Alors, mais c'est pas la fin de l'histoire, racontez-nous.
Non, il y a d'autres enjeux mémoriels dans l'art contemporain. Ils ne sont pas qu'à Venise ou à Paris, mais ils sont aussi en province, à Montpellier, par exemple. Parce qu'à une époque où les crédits publics sont peau de chagrin et les écoles d'art menacées de fermeture, eh bien celle de Montpellier a choisi une stratégie mémorielle de survie. C'est-à-dire qu'elle organise une grande exposition qui retrace l'histoire et les gloires de cette école, depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, au MOCO. Alors le MOCO, c'est l'abréviation de Montpellier Contemporain. Et donc le musée où a lieu l'exposition et l'école appartiennent tous deux à la même entité administrative et elles ont le même directeur. Vous voyez, ça aide même beaucoup. Bon, donc le financement public peut ainsi participer à un parcours montrant que finalement tous les chemins mènent pas à Rome mais à l'art très très contemporain, à l'AC, et en rendant au passage hommage aux prédécesseurs. Donc on part d'un ancien élève de David qui a été fondateur du musée Fabre qui porte son nom, et puis on voit au fil des générations d'artistes les esthétiques défiler, le système ancien résister puis céder, et puis on rend hommage à Soulages et au groupe Support Surface, ainsi évidemment qu'aux jeunes pépites actuellement émergentes, puisque c'est le mot consacré. Alors, le procédé de l'exposition est très connu, c'est un procédé très confusif, volontairement confusif, c'est-à-dire que c'est à la fois chronologique et thématique, donc ça permet de facilement perdre le fil du récit, ça d'ailleurs même le journaliste du Monde le remarque, et ce qui est amusant, c'est que là aussi il y a des petits craquements, lui-même est un petit peu sceptique sur cette démonstration, puisqu'il termine son papier en disant « les dernières salles consacrées aux années récentes sont plutôt pauvres en révélation ». Fin de citation. Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas que le MOCO à Montpellier. Vous savez, il y a aussi le MOCO Panacée. Ça ne s'invente pas. Le MOCO Panacée, c'est quoi? C'est un lieu d'exposition dédié à la création émergente, bien sûr, laboratoire de création et d'expérimentation. Alors, Personnellement, moi, je préfère Pépé le Moko, vous savez, le film avec Gabin, mais là, faut pas se tromper, on est au Moko Padacé, où c'est la fête au peintre Jamel Tata. Alors, en 2002, Tata avait déjà eu les honneurs d'une rétrospective au musée Fabre, toujours à Montpellier. Mais au Moko Padacé, il est mis en valeur, donc nous sommes bien à Montpellier, où il vit maintenant, certes, mais suivez-moi bien, Aude, il est mis en valeur à Montpellier pour son enseignement aux Beaux-Arts de Paris, où il a enseigné de 2008 à 2023. Vous voyez les ramifications, les arborescences. Donc au Moko Padacé, vous avez 16 de ses élèves, dont Bilal Hamdad, qui Hamdad a exposé au Petit Palais encore au début de cette année, Djabril Bouquet-Naïssi, qui a déjà montré à Chicago, donc ça marche très bien pour lui. Donc ils sont réunis au Moko Padacé, même si, je cite, « leurs pratiques sont éloignées les unes des autres, en fait leur seul lien est d'avoir été élève de Tata, héros de la galerie internationale Kamel Menouvre ». Alors, il y a quand même un problème avec ces célébrations d'artistes officiels et de leur réseau adoubé par les institutions plus ou moins, plutôt plus que moins, en cheville avec le marché, c'est que la mémoire et l'évaluation des faits artistiques risquent d'être faussées par une auto-légitimation sournoisement endogame qui monopolise les médias. C'est-à-dire que tous les artistes qui travaillent hors circuit ne sont pas archivés, ne sont pas référencés. Alors, cette chronique, vous pouvez la retrouver sur mon blog Surgins.fr, la rubrique Grain de sel du mardi, c'est gratuit. Surgins, c'est Surgins.fr. Et Aude, je voudrais continuer en mettant en garde les auditeurs, non pas seulement contre la manipulation de la mémoire, vous savez que la mémoire, c'est pas l'histoire. La mémoire, même collective, elle est émotionnelle, elle est subjective. L'histoire, c'est une discipline qui s'efforce à plus d'objectivité. Donc, les mettre en garde aussi, je crois que c'est important, sur la manipulation de l'attention. Vous savez que dans mon dernier livre sur les bienfaits du beau, il y a tout un chapitre qui est consacré à un éloge de l'attention. Parce que l'attention, peut-être plus encore que la mémoire, c'est le cheval de bataille des guerres culturelles. Hein. Il faut absolument capter l'attention citoyen. Donc avant de solliciter notre mémoire, l'imagination, la logique, avant même de déclencher des émotions, la première faculté que l'art et le beau sollicitent en nous, c'est l'attention, c'est-à-dire la capacité d'observer. Les flux numériques, ils bougent sans arrêt, c'est-à-dire que les données qui s'affichent à l'écran à un instant précis, elles virent dans le néant l'instant suivant. Tandis que les œuvres d'art, par exemple les peintures ou les sculptures, elles ne bougent pas. Donc elles calment le jeu, elles permettent de se poser et de regarder en profondeur. Et là, Baudelaire disait qu'il fallait regarder les œuvres en enfance, c'est-à-dire avec ce regard qui se situe avant le langage, hein, puisque le tout petit ne parle pas. Bergson dit la même chose, il dit qu'il faut trouver une certaine manière virginale de voir, d'entendre ou de penser. Et ce qui est amusant, c'est que plus les Occidentaux délaissaient les pratiques d'attention portées à l'art, plus ils remplissaient les salles de méditation orientales. Mais en art, il ne s'agit pas de cultiver une pure réceptivité pour elle-même, il s'agit plus simplement d'ajuster notre attention à l'œuvre qu'on a sous les yeux. Or, c'est là que je voudrais tirer une petite sonnette d'alarme. Il y a une nouvelle donne qui a récemment, enfin quelques dizaines d'années, brouillé le jeu. Et cette nouvelle donne ne concerne pas seulement les nouveautés technologiques hein, sur nos ordinateurs ou nos smartphones qui fragmentent l'attention, qui la captive dans l'addiction aux réseaux sociaux, voire même aux jeux vidéo. Non, le danger est venu plus sournoisement de l'intérieur de l'art, avec l'émergence, à partir du milieu des années 70, de l'art dit contemporain, que nous appelons la C, pour bien montrer que c'est quelque chose de très particulier, parce que justement l'art dit contemporain nécessite un régime d'attention particulier. Car depuis cet AC, qui est volontiers conceptualisant, l'évidence décrite par Schopenhauer ne va plus de soi. Schopenhauer disait « les arts ne parlent jamais que la langue naïve et enfantine de l'intuition » et non le langage abstrait et sérieux de la réflexion. Il ajoutait que toute œuvre d'art, véritable et réussie, répond à sa manière et toujours bien à cette question « qu'est-ce que la vie ?». Or, dans l'AC, il n'y a que détournement, transgression, rupture d'avec les mondes et sociétés antérieures, et pour lui réussir implique d'abolir ou d'annuler ou de rendre dérisoire l'art tel que Schopenhauer pouvait le connaître, c'est-à-dire inséparable de la beauté. Et Dieu sait d'ailleurs si Duchamp a méprisé la beauté, hein, la transformant en beauté d'indifférence, autant dire une non-beauté. Bon. Donc une œuvre d'Assé, elle veut perturber, elle vous dit c'est perturber, c'est créer. Elle ne répond jamais, elle questionne à tout va, elle remet en cause, elle subvertit, elle réclame, elle revendique, elle cherche des réponses. Non, elle ne cherche pas de réponse. Elle exhibe des constats, aussi déceptifs et transgressifs soient-ils. Donc la question qui tenaillait les œuvres d'art et les artistes depuis les siècles, hein, qu'est-ce que la vie ? Eh bien, Lassé la change en « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Rien étant d'ailleurs donné de manière sous-entendue comme supérieur à l'être, parce que être, c'est toujours limité, on est toujours imparfait. Et donc l'être ne mérite que consommation et destruction, ce dont s'acquitte fort bien la transgression, d'où cette redéfinition du mot contemporain qui a été donnée par un philosophe, qui à mon avis est très juste, le contemporain est ce qui lutte contre ce qui est. Hein. Donc il vous suffit d'exister pour devenir la cible de ce contemporain-là. Donc vous voyez que c'est une formule qui est aux antipodes de ce que l'homme de la rue s'imagine de la contemporanéité. Eh bien non, l'art dit contemporain n'est pas l'art de tous nos contemporains, c'est pas un mot qui désigne une catégorie temporelle, mais au contraire l'arrêt mortifère du cours des choses. Hein, l'art contemporain, c'est le coup d'envoi, c'est l'urinoir de Duchamp, c'est 1917, on est quand même en 2026, vous voyez. Donc c'est une forme de nihilisme, et la beauté y est bien sûr un ennemi à abattre, et donc nous ne pouvons plus, hélas, prendre refuge, comme Baudelaire. Hein, Baudelaire disait « je prends refuge dans une impeccable naïveté, au risque d'être abusé par des tableaux qui ont l'air de tableaux, mais qui ne sont là que pour déconstruire la peinture, hein, qui est un déconstruction. »
On arrive à la fin.
Voilà, et donc c'est un travail de sape qui permet en fait de contraindre en douceur. Donc autant on peut
merci,
avoir confiance.
On est... voilà. Voilà. Christine, merci infiniment. Et on remet à vos livres. À tout bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Aude de Kéros diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 4 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.